Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de méditer aujourd'hui sur l'évangile que nous entendrons dimanche prochain, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 et à 48. Nous poursuivons le discours sur la montagne et arrivons à ce passage étonnant où il s'agit de tendre la joue à celui qui nous a déjà giflé, à ce texte qui nous invite à l'amour des ennemis. Commençons par écouter le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Fin de la lecture. Ce texte a beau être connu, il heurte notre sens de la justice. « Si tu m'as giflé, je ne vois pas pourquoi je te tendrai l'autre joue. Si tu me poursuis en justice, je ne vois pas pourquoi je te donnerai plus que ce que tu me demandes, le manteau en plus de la tunique. » Si tu me réquisitionnes pour 1000 pas, je ne vois pas pourquoi je doublerai le temps que je passe avec toi. Au contraire, je souhaiterais plutôt que tu subisses la peine, la douleur que toi-même tu m'avais infligée, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. La loi du talion nous semble un bon indicateur, œil pour œil, dent pour dent. Elle nous permettait de conserver le sens de la mesure. La loi du talion nous semblait déjà une bonne mesure contre la surenchère de la violence. Vous vous souvenez de ce descendant de Caïn qu'on appelle Lamech, en Genèse 4, 23 et 24, qui disait à ses femmes, « Ada et Silla, entendez ma voix, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 70 fois. » Pour se protéger, la Mecque recourait à une surenchère de la violence. La loi du talion bloque ce type d'attitude. Mais ici, il y a une surabondance qui est demandée et qui nous pose question. On se demande, mais est-ce que la justice est encore respectée? Est-ce qu'on fait encore la distinction entre le bon et le méchant, entre le juste et l'injuste? On va donner surabondance de biens à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pourtant, la distinction bon-méchant et juste et injuste demeure. On l'a dans ce verset, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Le jugement sur les actes, le jugement sur les actes commis par les personnes demeure. Cela signifie qu'il n'y a pas une disparition du sens de la justice, mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre objectif. Essayons de le comprendre. Quel est cet objectif qui implique cette surabondance? L'objectif est d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. L'objectif est de devenir parfait comme notre Père céleste est parfait. Il y a donc une conformité au Père des cieux parce que nous devenons fils du Père des cieux. Il s'agit bien d'accomplir un acte qui est extraordinaire. Il s'agit bien d'accomplir un acte qui est digne d'une récompense. Il va donc au-delà de la justice elle-même. La mesure de ce comportement, c'est le Christ lui-même, lui qui est le Fils du Père et lui en qui nous devenons fils du Père. Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'ils doivent apprendre à vivre comme lui. Ils sont appelés à devenir véritablement fils du Père des cieux et donc à vivre comme le Fils qu'il est lui. Or, qui est-il ? Il est le Christ Sauveur. Il est le Fils venu comme Sauveur de l'humanité pécheresse. Il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés et les réconcilier avec Dieu. Ce salut, cette réconciliation, implique donc d'aller s'occuper d'hommes injustes, d'hommes méchants, d'hommes pécheurs, mais pour les faire sortir de leur état de pécheur, de leur état de méchant, de leur état d'ennemi. Il y a derrière cela un principe tout simple, c'est que l'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Avec ses amis, on n'a pas besoin de faire la paix. On est en paix. C'est avec ses ennemis, avec ceux qui nous font la guerre, qu'il faut faire la paix, parce qu'elle n'existe pas. Cela signifie que faire la paix, c'est aller fréquenter des personnes qui n'étaient pas aimables, qui étaient injustes à notre égard, qui nous faisaient du mal. Il va falloir aller à leur rencontre pour tâcher de bâtir un avenir différent, pour se donner l'opportunité de bâtir un avenir différent. Cela éclaire alors les exemples que le Christ prend. Tendre l'autre joue à celui qui nous a frappés, ce n'est pas par amour de prendre des coups, c'est parce que si je dois faire la paix avec lui, il faut que je demeure en sa présence. Et si je suis simplement lancé dans la volonté de rendre les coups, de rendre coup pour coup, eh bien, je n'entre pas dans des négociations de paix. Laisser son manteau à celui qui veut prendre la tunique. Il faut se souvenir que dans le droit juif, on doit rendre le manteau au pauvre avant la nuit. On ne peut pas le priver de son manteau pour dormir. Ça signifie qu'on va rester en relation avec lui. Ce n'est pas « dépouille-moi et puis nous ne nous voyons plus ». C'est « je te donne ces moyens, mais nous restons en relation ». Si je fais 2000 pas avec lui alors que j'aurais pu être quitte pour seulement 1000 pas, c'est que je veux donner un avenir à notre présence l'un avec l'autre. Si je ne tourne pas le dos, justement, c'est que je veux un contact, un dialogue qui se prolonge. Faire la paix, c'est espérer que celui qui est mon ennemi et qui me fait du mal et qui est une menace puisse devenir un partenaire, puisse devenir un collaborateur. Il y a un effort qui est fait au nom d'un avenir que l'on souhaite, mais qui n'existe pas encore. Je suspends une rétribution immédiate au nom, en vue d'un avenir qui n'existe pas encore, mais pour qu'il puisse exister un jour. Nous saisissons alors qu'on est au cœur de l'œuvre du salut. Le Christ est venu donner sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs et ennemis de Dieu. Le Christ est venu donner sa vie non pas pour des gens qui étaient amis de Dieu, fidèles à l'Alliance et simplement oppressés par des ennemis. Il est venu donner sa vie pour que d'ennemis de Dieu et endurcis dans l'inimitié avec Dieu, nos cœurs puissent être transformés et que nous puissions devenir amis de Dieu, sanctifiés, alors que nous ne l'avions pas mérité au préalable, mais dans l'espoir justement que, une fois sanctifiés, nous puissions demeurer saints, nous puissions devenir saints, nous puissions nous perfectionner avec sa grâce. C'est ainsi que Paul le persécuteur devient saint Paul, c'est ainsi que Pierre le renégat est devenu saint Pierre, c'est ainsi que Thomas l'incroyant est devenu saint Thomas l'apôtre. C'est ce que voudra dire la phrase de saint Matthieu au chapitre 11 au verset 19, « La sagesse a été justifiée par ses œuvres ». En voyant le résultat de ses œuvres, on comprendra qu'il était juste de faire ce que l'on a fait. Lorsque l'on voit le pécheur qui est devenu un saint, lorsqu'on voit la sainteté et le bien qu'il fait, on se dit que l'on a eu raison d'offrir cette chance, d'oser espérer un avenir, d'oser suspendre la rétribution immédiate du méchant, afin d'offrir un avenir où le méchant est devenu bon, juste et saint. Tel est l'objectif, telle est la démarche du salut. Nous pouvons faire une petite remarque, c'est prendre conscience que le Christ a déjà vécu cela pour nous. Il a déjà vécu cette surabondance afin de nous donner cet avenir de sanctification. Il a donné gratuitement pour nous alors que nous étions ennemis de Dieu, afin d'ouvrir cet avenir où nous sommes sanctifiés, où nous pouvons grandir comme amis de Dieu. Et donc, nous comprenons qu'être fils du Père, offrir à d'autres la gratuité dont nous avons nous-mêmes bénéficié, parce que nous-mêmes nous avons été sanctifiés gratuitement. Si nous sommes fils dans le Fils, nous offrons à notre tour, après en avoir bénéficié gratuitement, cette gratuité, cette espérance en vue de la réconciliation avec celui qui est aujourd'hui notre ennemi, celui qui nous fait du mal, en vue d'une réconciliation, en vue d'une paix où la justice sera ensuite vécue, où la justice régnera. On suspend la rétribution immédiate en vue de la réconciliation et de la paix où régnera la justice. On se rend compte alors que ce passage n'est pas un mépris de la justice, un oubli de la justice, mais au contraire, se donner les moyens que celle-ci règne plus parfaitement en ouvrant un avenir nouveau. Mais nous comprenons aussi que ce comportement n'est pas un comportement naturel, parce que être fils du Père Céleste, être fils de Dieu, ce n'est pas naturel pour un homme. Dieu est de nature divine et nous sommes de nature humaine. C'est donc un comportement surnaturel. C'est donc un comportement qui n'est vécu que dans la grâce de Dieu, que dans l'union au Christ, dans la force de l'Esprit-Saint. Pour offrir cet avenir, je dois demander la grâce du Christ, demander la grâce de sa force dans la passion, parce que je vais rencontrer certainement une dimension de la croix pour aller et pour demeurer en présence de celui qui est encore mon ennemi, pour offrir cette surabondance. Sans l'union à Dieu, je n'aurai pas la force de vivre cet extraordinaire qui offre un avenir à la réconciliation. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être tout particulièrement les trois points suivants. Premièrement, ce passage ne vient pas nous dire que la distinction entre bon et méchant, entre juste et injuste, a disparu. Elle demeure. Deuxièmement, la rétribution immédiate du méchant est suspendue en vue d'offrir les conditions d'établir la paix. On va donc espérer que celui qui est aujourd'hui mon ennemi puisse devenir un collaborateur, et donc je vais le traiter ainsi, demeurer en sa présence ainsi, et j'accepte de faire cet effort supplémentaire afin que nous puissions changer l'état de guerre dans lequel nous nous trouvions. Cette suspension de la rétribution immédiate du méchant a pour objectif d'établir un état de paix où la justice sera vécue de façon pérenne. Troisièmement, la force pour pouvoir vivre cette suspension de la justice, pour pouvoir offrir cette surabondance de présence, de disponibilité, nous vient de l'union à Dieu, et nous avons besoin de l'union au Christ pour le vivre, car c'est un acte qui est surnaturel, non pas contre nature, mais surnaturel, au-delà de notre seule nature. C'est vraiment une œuvre qui nous identifie au Christ, parce que c'est ce qu'il a vécu pour nous. Mais c'est aussi une œuvre qu'il veut et qu'il désire, c'est gratuitement qu'il nous a offert le salut. Si nous sommes devenus semblables à lui, nous sommes appelés à vivre pour nos frères de cette gratuité dont nous avions nous-mêmes bénéficié. Je vous souhaite de bons échanges.